Bonsoir, on se retrouve pour votre quinzomadaire radiophonique préféré. On y parle toujours nouveaux talents et première fois. Ce soir, il va être question de charrettes et de maisons. Mes invités racontent ou dessinent des histoires. Mais avant de commencer, vous arrive-t-il de littératurer votre vie ? C'est ce que fait Cosima qui choisit de produire de la fiction plutôt que de s'apesantir sur une réalité trop dure, coincée qu'elle est avec un petit frère muet, une mère au pessimisme pesant et un père artiste du genre inconséquent. S'apesantir, c'est bien tout le contraire de ce nouveau roman de Milena Agus. On est à Sardaigne et la mère de Cosima est le fruit d'un amour illégitime. Je pense qu'à part moi, plus personne ne dit ça. Disons que sa grand-mère a eu une aventure avec un homme marié qui a préféré sans reconnaître sa fille. Quand le livre débute, la mère apprend que, contrairement à ce qu'on lui a toujours dit, ce père n'est pas mort, et elle fonde de grands espoirs en découvrant qu'il a une grande et belle maison. A-t-elle enfin quitté cette vie difficile de femme de ménage, une vie faite de sacrifices et de privations, où on compte tout le temps, et où les boulettes de viande sont plus faites avec du pain que de la viande? Mais revenons à Cosima, une adolescente qui a rejoint avec sa famille Caligari, en Caligari, en Sardaigne, je crois, mais qui reste très attachée à son village, sa nature, ses odeurs et même certains de ses habitants. Car la grande affaire de Cosima, c'est la littérature et l'amour, la littérature dans laquelle elle croit apprendre à vivre. Elle rêve un jour d'écrire un récit qui se terminerait bien, mais elle oublie que dans n'importe quelle histoire, il y a plusieurs manières de bien finir qui ne sont pas toutes équivalentes pour tous. Dans ce roman aux rares allures de feel-good roman, on découvre une adolescente d'aujourd'hui, et ben dis donc, racontée par une autrice ayant dépassé la soixantaine. Faussement naïf, le roman est moins sucré qu'il n'en donne l'impression, car il raconte l'éducation sentimentale d'une jeune fille éprise de poésie, de sensualité et de littérature. Et comme chacun sait, une éducation c'est toujours un peu cruel. Ça s'appelle Le vent passe, la nuit aussi. C'est signé Milena Agus, c'est traduit par Marianne Faurobert et ça paraît aux éditions Liana Lévy. Eh bien, bonsoir Émilie Desvaux, vous êtes avec nous ?
Je suis là avec vous, merci de m'avoir invité.
Vous êtes à distance, vous venez de publier Le ciel de Tokyo aux éditions Rivage. Et puis avec nous, Dany Collatéral, bonsoir. Vous êtes à Paris et vous êtes auteur de Je suis charrette, une vie d'architecte aux éditions Delcourt. Bonsoir à vous deux. Est-ce que vous, pour commencer, Le ciel de Tokyo, donc oui, aux éditions Rivage, je vais vous demander pour commencer, est-ce que vous pouviez nous parler, Émilie, de cette Gaijin House, alors moi je ne sais pas le prononcer, Gaijin House. Gaijin House, qui est une sorte de jeunesse pour adolescents qu'on trouve au Japon, c'est ça ?
C'est ça, ce sont des maisons où on met les étrangers parce qu'au Japon, il est assez difficile de vivre avec les locaux et qu'en réalité, on préfère trier les gens. Les gaijin étant les étrangers, on leur loue des maisons communes où on partage les chambres.
Et dans vos trois romans, je n'ai pas lu les trois, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une histoire avec une maison, un jardin. Où est-ce que vous entretenez un
rapport ? Je me faisais cette réflexion moi aussi récemment.
Justement, est-ce que vous entretenez un rapport particulier avec les maisons de votre vie ?
Je crois, oui. Mais je crois que c'est quelque chose, c'est bête à dire, de typiquement féminin. Il y a quelque chose avec l'espace domestique et les jardins, une forme de personnalisation de l'espace, la façon de l'habiter. Moi, j'habite très fort les lieux où je me retrouve parfois. Et habiter, d'une certaine manière, c'est en venir ensuite à écrire. C'est un prolongement du corps.
En introduction, je parlais du dernier roman de Milena Agus, où la jeune héroïne parle des livres où elle aimerait habiter. Et je me demandais si vous, il y avait des maisons de fiction qui vous avaient marqué, où vous auriez aimé vivre, hein.
Oui, il y en a de très nombreuses. Je me souviens d'un manoir gothique dans un roman de Tanis Lee quand j'avais 14 ans. Ce qui m'avait marqué, c'est que c'était un manoir magnifique, mais il y avait des vitraux à toutes les fenêtres. Et l'idée de fenêtres colorées avec des images tirées des tarots ou de la Bible, ça m'avait semblé complètement fascinant.
C'est toujours un rapport esthétique. C'est quoi ? C'est un rapport esthétique d'abord ?
Oui, je crois que j'ai tendance à thésauriser les belles choses. J'aime les antiquités, j'aime les beaux objets, j'aime les posséder. Je sais que le matériel n'est pas censé nous rendre heureux, mais alors moi, une très belle lampe Tiffany en verre teinté ou des beaux meubles, ça me rend terriblement heureuse parce que ça me fait rêver.
Vous, Dany Collatéral, vous êtes architecte, justement, quel rapport vous avez avec le lieu d'habitation ? Est-ce que vous aussi, il y a des lieux qui vous ont fait fantasmer, peut-être dans des livres, dans des films, avant même d'avoir écrit un roman graphique ?
Bah, c'est plutôt les mots architecture, je dirais, qui m'a toujours fasciné, conçu comme une façon de faire un projet, de créer quelque chose. Et la chose que j'ai trouvé intéressante du métier d'architecte, c'est qu'après, tu peux faire plein d'autres choses. J'aurais jamais pensé de faire de la BD, mais pour moi, faire de la BD, c'est comme faire un projet d'archi. Il y a le même processus, les mêmes démarches, et on peut faire plein d'autres choses.
Vous auriez aimé être architecte, par exemple, vous, Émilie ?
J'aurais adoré ça si j'avais été meilleure en maths et surtout en géométrie.
c'était pas votre point fort ?
Non, malheureusement pas. J'aurais aimé la physique aussi. Si j'avais été forte pareil en maths, je me serais dirigée vers la physique quantique, les explications de l'univers. Mais bon, il a fallu reconnaître les limites et moi, c'était le français qui était fort. Donc voilà.
Si on en revient à votre roman Le ciel de Tokyo, on va quand même rester avec l'idée de cette maison. Est-ce que pour écrire ce livre, vous avez déjà eu besoin de voir cette maison pour inventer les personnages qu'elle est dedans, ou est-ce que c'est dans l'autre sens, ou est-ce que tout ça, ça s'est fait en même temps?
À vrai dire, elle existait. Il y a une vingtaine d'années, je me suis retrouvée dans une maison qui ressemblait beaucoup à ça. Alors, pas tout à fait. Elle n'était pas tout à fait pareille, mais il y avait une maison dans laquelle des personnages défilaient. Et je suppose qu'ensuite, avec les années, elle s'est cristallisée dans ma mémoire et je l'ai reconstruite en quelque sorte parce que j'avais envie d'y retourner. Peut-être qu'on écrit souvent pour retrouver les choses perdues. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Mais il y a quelques semaines, je suis retournée. Enfin, j'ai eu l'occasion de retourner à Tokyo avec ma fille. Et je suis retournée voir la fameuse maison.
Ça doit être terrible,
Elle
ça,
avait
non?
été remplacée par un garage Amazon, donc ça m'a fait drôle quand même. Et je me suis dit, bon, ben heureusement que je l'ai écrite parce que maintenant elle est éternelle. Enfin, non, elle n'est pas éternelle, mais en tout cas, elle existe ailleurs, quoi.
Vous avez travaillé avec des photos?
La farce, soyons honnêtes. On veut des feuilles, enfin, on veut des cerisiers en fleurs avec la brise qui les éparpille.
Et donc vous avez vécu, vous avez donc vécu dans une la maison que vous décrivez, c'est celle que vous avez vue donc?
Oui, alors je suis pas restée. Je suis restée un an au Japon la première fois. J'ai dû vivre peut-être 6 mois dans cette maison avant de déménager parce que bon, à un moment donné, j'ai voulu aller vers d'autres cieux. Je me suis un peu promenée dans le pays aussi et je suis retournée à 2 reprises depuis, mais pas aussi longtemps. Après, le reste, je pense que j'ai dû mélanger avec énormément de maisons d'étudiants, parce que c'est ce genre d'ambiance, les maisons d'étudiants, les locations d'étudiants dans les petites villes de France. Moi, c'était Toulouse, où on retrouve quand même cette ambiance un peu bohème, le transitoire, le dépeuplé un peu, les cendriers, etc. C'est la jeunesse qui fait cette crasse-là.
C'est très étrange parce que c'est à la fois un endroit où on a moyennement envie d'aller, et c'est ce que vous venez de dire, hein, il y a des rats et des cafards, mais en même temps, on
Oui.
referme votre livre à regret, on a l'impression qu'il y a quelque chose de particulier qui s'y passe dans cet endroit. Vous écrivez même, vous parlez de son atmosphère, d'une impression hésitante de beauté bizarre. J'aime beaucoup cette idée d'impression hésitante de beauté bizarre.
Oui, parfois on est étonné d'aimer les choses, non pas pour leur qualité, mais en dépit de leur qualité, presque pour leurs défauts. C'est peut-être là qu'est le véritable amour. Parfois, on tombe même amoureux de. Ben, même les personnages de mon histoire enfin, sont plus des défauts que des qualités, mais moi, je me suis mise à les aimer pour leurs défauts plutôt que pour leurs qualités. Je crois que c'est là qu'il y a un amour vraiment particulier. C'est l'amour en dépit d'eux. Et cette maison, je crois que je l'ai aimée en dépit d'eux. Et j'avais terriblement envie de la quitter. Et en même temps, même les derniers jours, quand il fallait dire au revoir, j'arrêtais pas de me dire, mais non, mais je reviendrai, mais je reviendrai. Bon, je n'y suis jamais retournée en vrai. Mais c'est dur de quitter ce qu'on aime et ce qu'on aime en dépit de ses défauts.
Ce que vous venez de dire m'interpelle, comme on disait dans les années 80, parce que les personnages, il y en a un qui est particulièrement pas sympathique, et à la fin on apprend ce qui lui est arrivé, je peux dire son nom, qui
Oui,
s'appelle
allez-y.
Lénine, le
Oui.
personnage qui s'appelle Lénine, vous racontez ce qui lui arrive quelques années plus tard, et alors que pendant tout le livre je le trouvais pas du tout sympathique, qui est, bah, on peut le dire, il meurt, et
Oui, c'est un petit con.
sa mort m'a bouleversé presque. Et j'ai trouvé
Et
ça
c'est
fort
bizarre,
parce que
hein?
vous arrivez à nous toucher avec des personnages qui ne sont pas forcément très sympathiques. Mais je vois qu'on n'en a pas encore parlé. Donc dans ce lieu, vous vous intéressez particulièrement à Camille, Lénine, Flavio. Vous nous dites quelques mots de chacun d'entre eux?
Alors Camille, c'est cette héroïne un peu vide, j'allais dire creuse, mais ce serait quand même lui faire injustice. Mais c'est cette jeune Française qui a fait un mariage déçu et qui part s'installer à Tokyo presque sur un coup de tête, sans vraiment de projet, sans passion ou quoi que ce soit, juste parce qu'à un
Ouais, elle
moment
n'a même pas une
donné,
passion
ben,
du
elle
Japon.
part.
Elle n'a même pas une passion du Japon particulière.
Non, non, même pas. Il y a vraiment ce côté, elle a glissé dans une faille de la vie et elle s'est laissée porter vers cette faille-là. Tandis que les autres sont là par choix, par envie, alors Lénine, c'est ce cancre, ce petit con qui. Le genre de personne qui veut toujours faire son petit malin, qui a toujours raison, parfois horripilant dans les groupes d'amis, et qui est là et qui, bien sûr, veut tout facile. Donc, lui, c'est les femmes. Donc, il gagne sa vie en séduisant les femmes et il dépense l'argent en jeux vidéo, en plaisir facile, et il s'imagine que ça pourra durer toujours parce que, d'une certaine manière, il le vaut bien. Mais bon, malheureusement, la vie fait que personne ne le vaut suffisamment pour que la fête dure toujours. Et puis, il y a Flavio. Qui est lui, ce premier de la classe, ce bon garçon adoré par sa maman, qu'elle couvait trop fort, et qui, lui, a suivi une passion littéraire pour le Japon, mais en même temps a fui la famille monoparentale étouffante, et a voulu se réinventer ailleurs, se réinventer beau, se réinventer japonais peut-être, se réinventer noble et poétique.
On dirait, on ne racontera pas ce qui lui arrive, mais on est très surpris avec Flavio dans votre livre. Le point commun des trois et peut-être d'autres qui passent, moi j'ai pensé au début qu'ils étaient en rupture, malheureux, mais c'est surtout qu'ils ne savent pas qui ils sont, non?
Oui, et puis ils ont quelque chose en eux, une sorte de vide qui fait, qui s'attire les uns les autres. Mais en même temps, ce vide, je trouve qu'il est pas. Enfin, ils sont communs aussi dans ce sens-là. Qui a une telle personnalité à 27 ans ou à 23 ans que déjà tout soit abouti, qu'il y ait une vraie passion? Enfin, rares sont les personnes qui sont à ce point des personnages jeunes. Beaucoup de personnes sont juste un peu vides, hésitantes, en recherche. Mes personnages, moi, je les ai vus comme ça. Puis on est nombreux aussi à cet âge-là à partir à l'étranger. Parfois, on dit oui, c'est pour se trouver, les voyages forment la jeunesse, etc. Et peut-être qu'effectivement, cette jeunesse, elle doit être formée parce qu'elle est informe au début.
Mais, par rapport à ce que vous dites, on a l'impression qu'ils sont encore dans des identités flottantes. C'est facile parce qu'on
Oui.
parle d'artistes du monde flottant, très beau livre
Oui.
d'Ishiguro, mais qui parle de la peinture japonaise, du dessin, enfin, c'est pas vraiment la peinture, si, de l'art japonais. Est-ce que
Oui.
vous aviez ça en tête, qui c'était.
Oui, j'ai beaucoup lu Kawabata autour de l'écriture de ce livre. Et c'est vrai que, alors pas seulement les textes sur Asakusa, mais bon, les textes sur Asakusa étaient fascinants. Mais l'idée, effectivement, d'un monde flottant, c'est quelque chose qui me hantait. Et même, je crois, à l'époque où je suis partie au Japon, et vous avez raison de faire cette remarque par rapport aux personnages, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils ont un attachement particulier à leur propre légèreté. C'est-à-dire qu'ils souffrent de ne pas avoir de vrai travail, de vraie famille, de vrai couple, de vraie patrie, mais en même temps, ça leur est délicieux de ne pas avoir ces liens-là. Il y a une sorte de contradiction puissante ici et que moi, j'ai ressenti là-bas.
Vous
Une
diriez
sorte de joie d'être seule, mais en même temps triste.
que vous avez écrit une sorte d'anti-auberge espagnole, en référence au film de Clapiche
Eh bien
qui se
oui,
passe où
oui
ils sont.
peut-être. Je ne l'aurais pas dit avant, mais vous le formulez bien. Et c'est vrai que, alors je ne l'avais pas fait exprès, mais il y a un contre-pied là-dessus. Parce qu'à l'auberge espagnole, chacun trouve finalement
Alors je crois qu'il y a une
ce dont
suite,
il a
pardon, hein, qui
besoin.
s'appelle Salade grecque, qui parlera peut-être plus à nos auditeurs. Là, je révèle mon âge,
Oui, bien
pardon.
sûr. C'est vrai que c'était d'une autre génération. Mais oui, dans l'auberge espagnole, chacun trouvait ce dont il avait besoin. Et puis surtout, c'était, on trouve l'amour, on trouve des attaches, on trouve des choses, on grandit d'un coup. Non, moi, c'est vrai que c'est plus, oui, c'est plus flottant.
Vous avez beaucoup travaillé pour les rendre attachants, vos personnages, vous-même, vous avez eu, au bout d'un moment, vous êtes attaché à eux ou pas? Parce que
Oui, c'est vrai
j'imagine
que
qu'on ne peut pas écrire sur des personnages qui ne nous intéressent pas.
non. À la base, j'ai pris comme des mannequins tout faits des personnes que j'avais croisées. Et c'est vrai que très progressivement, je les ai infusées de moi-même, chacun à leur façon. Camille est restée un peu vide jusqu'au bout parce que j'avais besoin, en quelque sorte. Camille, c'est un peu la combinaison de cosmonautes que je prêtais à mon lecteur pour pouvoir rentrer dans le texte. Donc j'avais besoin qu'elle reste quand même assez disponible. Mais pour Lénine et Flavio, c'est vrai que les deux, je les ai investis très fortement. Et c'est vrai, je me mettais à les aimer, mais je les aimais dans leur ridicule surtout. C'est quand Flavio fait sa drama queen, je le trouve adorable. Et Lénine, qui se croit toujours si spéciale et qui aimerait tellement être traitée de manière spéciale toujours toute la vie, ce côté infantile, je le trouvais très touchant aussi.
Puis Lénine, son vrai prénom c'est Christophe et c'est un très joli prénom, je tiens à le dire, parce que c'est le mien d'abord.
C'est vrai.
Dans votre livre, il y a un drôle de trio. Pour terminer, j'aurais justement voulu savoir, est-ce qu'ils auraient pu se rencontrer ailleurs, ces trois-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de magique qui est lié à cette maison?
C'est vrai que je ne sais pas s'ils auraient pu se rencontrer ailleurs parce que déjà, ils se seraient peut-être méprisés les uns les autres. Je pense qu'ils se sont retrouvés contraints, forcés d'apprendre à se connaître et donc à s'aimer, tout simplement parce qu'il y avait vraiment. Le Japon est un lieu dans lequel il est trop difficile pour un étranger, ou alors, à plus forte raison, un étranger pauvre, de trouver une place socialement. Et. Quand on ne peut pas trouver de place à l'extérieur, on le trouve auprès de ce qui est proche. Là, ils ont été contraints et forcés d'apprendre à se connaître et s'aimer. Ailleurs, je pense que, ils se seraient méprisés les uns les autres. Camille n'était pas assez jolie pour Lénine. Lénine n'était pas assez intelligent pour Flavio et vice-versa. Enfin, ça n'aurait pas fonctionné.
Je réalise qu'on n'a juste rien dit sur une chose, c'est que vous parlez aussi de la banlieue de Tokyo. On n'est pas dans Tokyo, on découvre d'autres
Oui, c'est vrai.
univers, un monde de galeries commerciales souterraines, de temples, de vie quotidienne. Vous avez décrit tout un Japon qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup. Est-ce que le soleil s'est couché là où vous êtes? Vous m'avez dit tout à
Oui, il
l'heure
s'est
que vous
couché,
y
mais c'est
regardiez.
toujours très beau.
Bon, eh bien, écoutez, on est heureux de vous avoir accompagné pendant ce coucher de soleil. On est très heureux de vous avoir reçu. Je redonne le titre de votre livre, Émilie Dévaux, Le ciel de Tokyo, ça a paru aux éditions Rivage et vous aurez compris qu'on vous le recommande. Merci beaucoup.
Merci.
monstres de l'adolescence. De les revoir parfois me fait comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai bien fait, je pense, de me souvenir de ça, du temps où tout allait bien.
Attention, c'est une fausse fin. Ça va repartir. Voilà, c'était Biche déjà vu. Ça lui apprendra pour la fausse fin. Dany Collatéral, bonsoir.
Bonsoir.
Votre roman graphique, c'est un peu comme Le ciel de Tokyo dont on parlait à l'instant avec Émilie Desvaux, une histoire d'amitié dans un milieu inconnu, voire hostile, non ?
Oui, tout à fait. C'est une histoire en partie autobiographique. Et pour moi, l'amitié, c'est très importante. Mais je pense qu'il y a un peu dans tous les métiers où on travaille beaucoup et c'est un métier passion et on est amené à travailler des heures et parfois des week-ends aussi. Bah, on crée des amitiés parce que forcément, tout partage des moments intenses et durs, mais aussi une passion.
Est-ce pour commencer, vous pouvez nous dire ce que signifie cette étrange expression ? J'imagine, hein, vous qui... Et qui n'est pas français, vous avez découvert cette expression « être charrette » que tout le monde ne connaît peut-être pas par ailleurs chez nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est être charrette ?
Bah, c'est une expression que j'adore parce qu'on ne peut pas la traduire dans des autres langues. C'est une expression typiquement française. Et cette charrette en question, c'est une charrette que les étudiants de l'école des Beaux-Arts à Paris ils ont fait voler de la gare de Montparnasse pour arriver à l'heure pour soutenir l'examen. Et du coup, ils posaient des maquettes ou des planches du projet... Sur lesquels j'étais en train de travailler, et il courait vers l'école pour soutenir l'examen. Du coup, je suis charrette, ça veut dire que je suis en retard, je suis en train de terminer un travail, je n'ai pas de temps. En fait, c'est une expression française, mais qui veut dire plein de choses, et c'est pour ça qu'on ne peut pas la traduire.
Et qui est très liée à l'architecture.
Architecture, mais aujourd'hui, je pense qu'on l'utilise dans tous les métiers d'art, du coup, même graphic design ou des métiers où tu travailles beaucoup, tu fais des heures en plus et tu es en retard.
Et la première fois où quelqu'un vous a dit « je suis charrette », vous avez dû ouvrir grand les yeux et vous demander de quoi on vous parlait, non ?
Qu'est-ce que c'est Mais bon, j'adore des expressions comme ça, en fait, très métaphoriques et aussi, ça fait partie de la culture d'un pays. Et du coup, j'ai découvert aussi que plein de Français ne les connaissaient pas et ne les connaissent pas non plus aujourd'hui. Et parfois, je me retrouve expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
C'est une idée. C'est donc votre idée d'appeler ces romans graphiques « Je suis charrette » ou c'est une idée de votre éditeur ?
Non, c'est depuis les débuts, c'était les titres.
Et,
et en fait, c'est la phrase qui est plus dite parmi les architectes. Et même, moi je suis italien, entre italiens, en fait, on dit « sono charrette », on ne traduit pas « charrette ».
Ah oui.
Et ça devient vraiment une expression très forte. Et à Paris, où j'habite et où je vis, qu'il y a plein d'architectes, vraiment, on l'a dit tout le temps, on l'a dit 50 fois par jour. Et je pense que c'est très fort, très puissant et c'est un titre qui est quand même pour nous interpeller, soit parce qu'on connaît les termes, soit parce que si on ne le connaît pas, on dit mais pourquoi ?
Alors, dans votre roman graphique, on rencontre Enzo, un jeune architecte qui décroche un stage dans un très grand cabinet d'architectes, peut-être un des 10 ou 15 noms qui sont connus dans le monde entier. Il semble découvrir complètement un monde. J'imagine qu'il y a une base autobiographique dans cette histoire. Est-ce que c'est un peu, cette bande dessinée, votre rapport d'étonnement, comme on dit pour un stagiaire qui doit faire un rapport d'étonnement ? Est-ce que vous avez voulu faire ça ?
Bah, en fait, je me suis retrouvé à raconter plein de fois mon expérience à des amis archis qui n'avaient pas eu la possibilité de travailler dans des cabinets d'un certain type, c'est-à-dire des gros cabinets d'architecture internationale qui, du coup, travaillent un peu comme le monde de la mode et du cinéma, avec des gros concours de rêves et plein de gens. On était une centaine, 150 dans ces cabinets. Et à raconter aussi des amis qui n'étaient pas archis. Ils étaient ravis d'entendre mon histoire et les vicissitudes qu'il y avait entre les gens aussi, du coup, les rapports interpersonnels. Et c'est pour ça que je compare souvent cette BD à les films Les Diables s'habillent en Prada ou la série The Office. Et je me suis dit, en fait, j'ai une histoire dans mes mains parce que je la raconte souvent et les gens ont envie de l'entendre. Pourquoi pas la transformer en BD ?
Ça, c'est dès ce moment-là ou après, avec un peu, vous avez laissé un peu infuser l'histoire.
Non, c'était totalement le hasard. En fait, moi, avant, je suis chargé, j'ai publié un album jeunesse pour un autre éditeur, ça s'appelle Sarbacane.
Entre les lignes.
Ouais, entre les lignes, pardon.
Non, non, on va donner le titre du livre, hein, quand même, entre les lignes.
Et ça, j'étais architecte à temps plein et j'avais besoin d'un peu de créativité. Du coup, j'avais quand même déjà publié un livre, mais je pensais que ça restait quand même un cas isolé ou juste un loisir. Et après, en fait, pendant les confinements, du coup, les Covid, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire avec? Et je me suis inscrit à un master en scénario BD, avec l'idée d'apprendre à écrire, du coup l'écriture, que c'est la chose qui me manquait, parce que les livres entre lignes, il n'y a pas un mot, c'est juste des illustrations. Et c'est suite en fait à ces masters que l'examen final, c'était écrire un scénario pour une BD. J'avais commencé avec un scénario de science-fiction, parce que j'aime bien ça. Et en fait, je me suis dit, non, mais il faut que je parle de quelque chose que je connais. Et c'est à ce moment-là que j'ai démarré avec mon scénario sur mon histoire personnelle. Et j'ai vu que les profs, ils étaient vraiment intéressés parce que c'est un sujet qui est pas connu. Et du coup, ils m'ont conseillé de continuer avec cette idée.
On va continuer à parler un peu de vous. Avant de parler de votre BD, qu'est-ce qui vous fait venir? Qu'est-ce qui vous a fait rêver? Vous, ça vous fait rêver de travailler dans un cabinet comme ça avec d'une grande star? On ne va pas donner le nom, évidemment, même si vous disséminez des petits indices dans la BD. Qu'est-ce qui vous fait venir à Paris à découvrir ce monde-là?
Plusieurs choses. La première chose, c'est que moi, j'ai terminé mes études en faisant plusieurs échanges à l'étranger. Du coup, j'ai étudié au Canada, à Montréal, dans une école de design d'événements. J'ai fait un Erasmus à Lisbonne pendant un an.
Ah, donc vous auriez pu aller au Japon.
J'ai été au Japon dans un voyage d'architecture avec mon université. J'étais en Chine, en Sud-Afrique. J'ai pas mal voyagé pour mes études. Et en fait, j'ai découvert que j'adore voyager, mais surtout, j'adore vivre dans un pays étranger parce que tu apprends la culture et tu apprends... tu t'inspires et même au niveau du coup architectural, c'est une façon d'apprendre. Et l'architecture, ça permet, vu qu'on dessine pas mal, on n'a pas besoin d'un niveau de langue exceptionnel pour travailler. Du coup, on a cette chance. Et du coup, je n'ai pas hésité quand j'ai terminé mes études à Venise. J'ai dit, je veux continuer cette vie à l'étranger et je veux continuer à parler français parce que j'étais tombé amoureux de cette langue. Et je me suis dit, Paris, c'est la ville parfaite parce que c'est une ville riche de culture. Il y a plein d'expos. Je pourrais profiter tous les soirs pour connaître des gens et apprendre.
Allez-y.
Et apprendre quelque chose sur l'art et à 360 degrés. Et en plus, Paris, c'est une des villes au monde où il y a plusieurs cabinets d'architecture de ces niveaux-là. Et mon rêve, c'était vraiment de travailler pour les Pritzker Prize, comme on les appelle. C'est l'Oscar de l'architecte. Et il y a plusieurs cabinets à Paris qui sont de ces niveaux-là. Donc il y avait de la chance de pouvoir aller rentrer.
Est-ce que leur mauvaise réputation, voilà, le côté on va dire un peu négatif que vous racontez dans le livre aussi, qui est ce monde un peu hystérique, on va le dire, vous parlez du diable s'habillant Prada, c'est pas pour rien, c'est quand même un univers très concurrentiel, pas forcément plein de... Si on se fait des amitiés fortes, on se fait aussi des ennemis. Et puis il y a surtout des gens qui se prennent très au sérieux et qui ont l'air d'être un peu des divas. Est-ce que ça, vous le saviez déjà ou vous l'avez découvert?
Alors, il y a des sites avec des leaks, comme on les appelle. Du coup, on raconte ce qui se passe à l'intérieur. On déconseille d'aller dans des cabinets plutôt que des autres. Et moi, je pense que vraiment, c'est des histoires personnelles. Parce que dans des cabinets si grands, en fait, il y a des cabinets à l'intérieur d'un cabinet. C'est-à-dire, ça dépend avec qui tout tombe. On travaille dans des équipes. Ça dépend du chef de projet. Donc, je pense qu'avoir une règle générale, c'est quand même toujours limitant. Et du coup, c'est pour ça, moi... il faut se faire sa propre expérience. Mais pour moi, je sais que j'avais besoin d'avoir une vision d'un certain niveau et d'apprendre. Et je suis même disponible à, entre guillemets, souffrir un peu pour apprendre.
Oh là là, je ne vous approuve pas. Mais bon, ça, c'est une autre question. On ne fait pas un débat sur le travail des jeunes. Mais bon. Votre livre est quand même finalement une description, une peinture du monde du travail avec des personnages véritablement toxiques. D'autres non. En vous lisant, moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui empêche que ça change? Les gens, ils sont d'accord avec ça? Il y a une espèce d'acceptation?
Parce
que votre personnage, il ne se rebelle pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de rébellion au sein du cabinet. Alors, on voit qu'il y a des solidarités qui se nouent. Il y a un bras, si je me souviens bien, il y a un des assistants du grand architecte qui n'est pas très sympa, qui glisse des pots de banane. Alors, je ne sais pas si c'est une expression française, ça, si vous comprenez. Glisser des pots de banane, faire tomber, quoi. Enfin,
ouais.
Qui fait des pièges aux autres. Et les gens acceptent ça, moi, ça me...
Alors, il faut dire que voilà, la base de tout,
alors,
de tout ça,
que
c'est
tout est
la
inventé,
passion.
Peut-être que tout est inventé dans votre livre.
Il n'y a presque rien qui est inventé. Après, ce n'est pas forcément autobiographique ni réaliste, parce que c'est quand même un peu caricatural, mais c'est inspiré par des faits vrais qui arrivent pas seulement dans le monde de l'architecture, mais je pense que dans les métiers passion, comme je disais, en fait, on est prêt à faire quelque chose en plus parce que c'est notre passion. Et du coup, si on a choisi un certain cabinet, bah, on est disponible à accepter des conditions que normalement on n'accepterait pas pour un boulot, soit alimentaire, soit que ce n'est pas forcément les rêves. Et du coup, oui, on accepte des choses que normalement on ne devrait pas accepter.
Oui, puis j'imagine que là, il y a aussi l'excitation de travailler, alors là, dans le livre, à la création d'un centre d'art moderne à Shanghai. Ça n'arrive pas tous les jours dans une vie d'architecte.
Bah, c'est pour ça, c'est des boulots très, très intéressants. Et vous, qui justement, voilà, c'est une passion. En fait, parfois, tu ne comptes pas tes heures de travail. Travailler en week-end, c'est quelque chose de cool parce qu'en fait, tu as accès à une énergie que tu n'as pas autrement. Et en fait, tu as presque envie de travailler beaucoup parce que tu apprends beaucoup. Justement, tu crées des liens intéressants. Donc, en fait, tu es en compagnie. Et en fait, ce n'est pas totalement désagréable. Il y a des moments désagréables, mais des autres, la plupart, en théorie, qui sont très positifs et excitants.
Est-ce que... Il y a le côté très diva du grand architecte qui, moi, pour le peu que j'en sais, est très français, où l'architecte est un artiste. Hein, je crois que l'ordre des architectes dépend du ministère de la Culture en France, quand dans d'autres pays, c'est presque un métier d'ingénieur. Est-ce que vous avez, vous, quand vous êtes arrivé en France, c'est quelque chose qui vous a frappé par rapport... D'abord, est-ce que Enzo et est-ce que vous, ça vous a frappé? C'est vrai que je confonds un peu là le personnage et vous.
Non, c'est côté diva, il est partout dans tous les pays. Il y a, voilà, cette génération, on les appelle les archistars, qui est en train de se terminer. C'est une génération des architectes qui ont aujourd'hui, je dirais, entre 60 et 90 ans, qui ont été exposés médiatiquement, qui ont fait un certain type de projets très artistiques, qui ont quand même recréé l'image de certaines villes où maintenant on crée des zéros certaines villes dans des pays, surtout voilà, en Arabie, où en fait il n'y a pas une culture en héritage architectural ou historique. Et aussi, je pense, ça allait avec aussi la... le développement d'Internet, des images, des vidéos. Et du coup, on recherchait des architectures très fortes, avec très fortes personnalités. Et les architectes de cette génération, ils ont une personnalité forte qui va avec les bâtiments. Aujourd'hui, cette situation est en train de changer. Même les gens cherchent des architectes qui ont moins de personnalités, mais qui font un travail un peu plus d'équipe à l'horizontale pour des projets un peu plus liés au territoire, à l'environnement. Les besoins ont changé et même les rêves des gens architectes ont changé. Aujourd'hui, aller chez un archistar ou archistar n'est pas forcément le rêve d'un jeune étudiant, mais c'est plutôt travailler dans des bonnes conditions de travail avec une architecture qui pense à l'environnement et au monde en général.
Il y a un moment dans votre roman graphique, moi ça m'a fait penser à un documentaire que j'avais vu sur un grand couturier qui, la veille d'un défilé, fait tout refaire. Il y a un peu un côté comme ça où la création du maître arrive et c'est lui qui compte. On va parler de vous parce que vous aussi vous êtes un artiste. On parle d'un roman graphique, il faut qu'on parle de votre style. Vous-même, comment vous décririez votre style?
Alors ça, c'est une belle question graphique. Parce que moi, alors les styles de la BD de Je suis Charlotte, je les définis très précisément parce que je voulais que ça soit une BD d'architecture dessinée par un architecte et comme un architecte dessinerait une BD. Donc toute la direction artistique est basée sur ça, donc les choix des couleurs, les traits sont pensés par rapport au fait qu'en architecture on dessine en noir et blanc et après on rajoute des couleurs. De couleur rouge par exemple, c'est la couleur principale qu'on va utiliser quand on commence à dessiner des diagrammes, mais c'est aussi la couleur qu'on donne à des éléments qui vont être détruits par exemple dans une démolition d'un bâtiment. Et les bleus, après ça va de suite parce que c'est une couleur quand même qui marche toujours bien. Et par exemple il y a des hachures, comme on dit en architecture, du coup c'est des patterns qui en fait font les liens entre les dessins d'architecture et les mangas surtout. Et du coup j'ai fait tous ces choix des couleurs, des dessins pour arriver à quelque chose qui pour moi était cohérent avec les contenus.
Il y a aussi quand même, pour qu'on en parle, c'est quand, je ne sais pas si quand on est, moi j'ai jamais écrit une BD, mais vos doubles pages sont vraiment construites comme un architecte. On voit qu'il y a un jeu géométrique, j'ai l'impression que vous avez vraiment cherché à varier et en même temps elles sont très très construites.
Ouais, je pense qu'avoir quand même travaillé comme architecte pendant des années et...
On a presque l'impression de voir parfois des plans, quoi, quand...
Bah, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte en faisant la BD qu'on avait fait des espèces de BD plusieurs fois quand on dessine des projets d'architecture, parce qu'on doit les présenter, un projet d'architecture. Donc, à chaque fois, il y a un travail d'édition, que ce soit une planche imprimée où il y a une mise en page, ou que ce soit un dossier de 300 pages pour présenter un client, un concours, un projet, bah, c'est un travail d'édition. Du coup, je me suis retrouvé à faire certaines choses avec plus de liberté, parce que du coup, c'était un travail artistique. Et en plus, en faisant ces masters en scénario BD, j'ai découvert des auteurs qui sont devenus aujourd'hui vraiment des références, qui travaillent avec ces médiums. Et moi, la BD que j'aime aujourd'hui, c'est la BD qui utilise ces médiums comme seulement une BD pour raconter une histoire. Donc voilà, justement avec
comme
les mises en
exemple,
page.
Comme par exemple, vous pouvez nous donner des gens que vous admirez.
Chris Ware, par exemple, c'est les plus célèbres. Mais il y a aussi, je citerai Michael Villa aujourd'hui, ou ou des auteurs de la BD un peu plus underground qui en fait utilisent la mise en page, la composition de l'espace et du coup en fait la puissance du dessin avec la puissance des mots, on peut les mettre ensemble, mais surtout je dirais les rapports avec les lecteurs, parce que par exemple dans une BD c'est les lecteurs qui décident à quelle vitesse lire une scène, chose qui ne peut pas arriver dans un film. Parce que c'est les réalisateurs qui décident combien de minutes dure une scène. Mais une BD, l'auteur peut travailler les découpages ou les silences ou l'espace entre les cases pour faire lire d'une certaine façon. Même au niveau géographique, une page peut être lue de mille façons différentes si on fait marcher l'œil avec un parcours. Et ça, je le trouve très intéressant. Ça peut étonner les lecteurs, ça peut donner envie de tourner la page pour dire oh, qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Et du coup, j'avais les problèmes que toute l'histoire se passe dans un cabinet d'architecture. Du coup, j'avais besoin quand même de créer du mouvement et du rythme. Et j'ai utilisé aussi du coup, la partie graphique pour créer ça.
Mais est-ce que justement, ce type de dessin que vous avez fait, c'est lié au sujet ? Est-ce que c'est votre manière, j'ai envie de dire, naturelle, entre guillemets, de dessiner ? Est-ce que c'est votre personnalité de faire ce type de dessin ?
Non, je l'ai défini exprès pour cette BD. Les livres entre lignes que j'ai déjà publiés et dessinés sont complètement différents parce que pour moi, étaient cohérentes avec les contenus. La prochaine BD qui sortira en septembre, ça sera dessiné dans une autre façon encore parce que ça sera cohérente avec les contenus. Et les noms, en fait, danni collatéral, en fait, à ce sens-là. C'est un jeu de mots en italien. Du coup, collatéral, comme en français, ça marche. Et l'idée, c'est que chaque projet, ça soit quelque chose de collatéral, c'est-à-dire, je ne veux pas suivre une ligne directe, mais je veux à chaque fois faire un pas vers la droite, vers la gauche, en cherchant de créer un objet à 360 degrés, je dirais presque architectural, du coup, lié au contexte. Du coup, je n'ai pas envie d'avoir un style graphique défini.
Mais architecturalement, vous êtes quand même plus Bauhaus que Frank Gehry, non?
Je suis plutôt minimaliste en général dans ma vie, donc oui, j'ai dit
ouais,
plutôt.
C'est ce qu'on sent, quoi. Vous aimez une architecture assez, enfin, vous aimez quelque chose d'assez rectiligne. Vous n'êtes pas dans l'effusion, le trop.
Non, j'ai pas horror vacui et mon architecte préféré c'est Oscar Niemeyer quand même. Et j'ai fait un petit hommage dans la BD. Donc des lignes pures
L'architecte de Brazzaville ou à Paris du siège du Parti communiste.
Exactement.
Enfin, l'ex-siège du Parti communiste, espèce du colonel Fabien, métro colonel Fabien. Pourquoi vous n'avez pas mis de jaune? C'est une couleur que vous n'aimez pas?
Alors la première version des Je suis Charlotte avait les jaunes aussi.
Votre éditeur, ça coûtait trop cher, vous avez les jaunes.
On est livine. Non, c'est quand même un quadricromie la BD, donc ça aurait coûté la même chose. Mais en fait, cette BD a eu plusieurs phases de retravail et de redessin, parce que je n'ai jamais dessiné à la main. C'est la première fois. Donc au début, mes dessins n'étaient pas assez bons. Et mon dossier a été refusé plusieurs fois à cause des dessins. Et au fur et à mesure que j'ai redessiné, mon dessin s'améliorait, mais aussi mes idées s'éclaircissaient. Et du coup, j'ai décidé d'éliminer le plus possible. Et je me suis dit qu'une bichromie, ça suffisait pour raconter cette histoire.
Vous auriez pu travailler avec un dessinateur, juste écrire le scénario et donner l'histoire à quelqu'un. Vous y avez pensé un moment?
Ouais,
quand on refusait vos dessins?
J'avais pensé même avant que mes dessins soient refusés, parce que en fait, j'avais des artistes en tête qui étaient très forts, avec un style parfait pour cette histoire, et notamment, je dirais Alex Inker, que c'est un artiste français, et Paolo Bacigliar, c'est un artiste italien. C'est des gens qui dessinent très bien l'être humain, c'est-à-dire avec des personnalités très fortes et un peu caricaturales, mais aussi les bâtiments d'architecture. Et j'avais besoin de ces deux aspects pour cette BD. Et après, je me suis dit, c'est quand même une histoire très personnelle, je vais essayer de la dessiner. Mais du coup, j'ai passé 9 mois à apprendre à dessiner, parce que je voulais le faire à la main et je n'étais pas capable.
En lisant ce roman graphique, hein, je redonne son titre, Je suis Charrette, une vie d'architecte, on voit aussi que surtout vous êtes amoureux de Paris, non?
Ouais, ça se voit, je suis content parce que je l'ai fait exprès, c'est aussi une balade à Paris et je voulais...
Parce que quand, tout à l'heure, quand vous disiez qu'on était enfermé dans le cabinet d'architecte, il y a quand même des sorties, on reconnaît l'Est de Paris, je pense le 11e ou le 12e, des restaurants, des terrasses qui ressemblent... On les reconnaît tout de suite, je ne sais pas à quoi...
L'11e arrondissement, et je dirais aujourd'hui aussi le 10e, c'est un peu les quartiers des architectes. Presque tous les cabinets d'architecture sont là-bas. Et souvent, les gens archi veulent habiter là-bas parce que c'est à côté du boulot, mais aussi c'est les quartiers pour sortir le soir. Donc finalement, tu ne sors jamais de l'11e. Et j'aime bien quand même me moquer des architectes parfois. Donc aussi les week-ends, avoir des bâtiments d'architecture, c'est assez réaliste, mais c'est aussi une façon de dire, quand tu es architecte, tu travailles sur l'architecture toute la semaine, mais les week-ends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas visiter des bâtiments d'architecture, donc tu t'en sors jamais. Mais finalement, comme aussi dans l'interview de tout à l'heure, on voyait, l'architecture est présente partout. On est entouré, on ne peut pas s'empêcher de voir de l'architecture et d'admirer l'architecture. Donc je me suis dit, en fait, Paris, c'est une des villes plus belles au monde. C'est incroyable.
Ça, c'est vrai, vraiment, parce que les Parisiens disent ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Vous, avec votre regard extérieur,
bah, alors, comme
vous allez nous faire plaisir, là, allez-y.
La ville de Paris est une ville plus belle au monde. Après, je peux comprendre que la quotidiennité à Paris, ce soit difficile et on ne peut pas apprécier dans la routine la beauté parisienne. Et c'est pour ça que, voilà, si on a la chance de pouvoir soit travailler, soit vivre, je dirais, dans les centres-villes, on peut s'apercevoir des choses incroyables.
Enzo, il expérimente dès le début quand il cherche un appartement, où il se retrouve avec un copain dans un appartement sous les toits avec une vue très lointaine sur la Tour Eiffel. Il existe vraiment le Marco Missou.
Marco Missou.
Parce qu'on a envie d'y goûter quand on vous lit.
Bah, j'ai pas les préparer, Marco Missou.
Non, mais cette histoire-là, elle est vraie, que pour obtenir un appart, vous avez le personnage promet un tiramisu tous les mois à la dame pour que son dossier passe.
Alors, c'est la seule chose que j'ai vraiment inventée dans l'histoire, parce que c'était marrante. La vraie chose qu'on a fait pour avoir l'appartement, c'était on a fini l'appartement parce qu'il n'était pas fini. Vu qu'on était trois architectes,
on
a fini la cuisine pour préparer un tiramisu.
Ok, et il y a une histoire aussi avec une escalope. Alors, l'escalope, elle existe là?
L'escalope, elle existe. Il y a 7 restaurants à Paris qui s'appellent Chez Gladine et je conseille fortement d'y aller pour qu'il y ait faim.
Vous avez réussi vraiment à la finir?
Alors, il y a un diplôme qu'on a préparé aussi à l'agence pour les gens qui ont réussi à terminer
ça,
avec les noms gravés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Je vais vous demander, parce que vous avez un compte Instagram, est-ce que vous, dans votre travail, comment vous en servez aujourd'hui?
D'Instagram?
Oui. À quoi ça vous sert? Ça vous sert à présenter votre travail, à présenter ce que vous allez faire, d'abord comme dessinateur de romans graphiques et puis comme architecte?
Oui, alors personnellement, je ne suis pas très fan des réseaux sociaux et moi, je l'utilise mieux, j'ai mes sons psychologiquement.
Et ben voilà, ça s'appelle une mauvaise question.
Mais c'est fondamental aujourd'hui pour un illustrateur, un dessinateur. Donc, ma façon de l'utiliser, c'est j'essaye de mettre des contenus intéressants. Donc, si je poste quelque chose...
Je confirme, c'est très beau.
Si je poste quelque chose, en théorie, il y a une raison. Je me sens aussi responsable de l'environnement à chaque fois que je poste quelque chose parce que je sais que ça occupe de la mémoire, de l'énergie et ça consomme de l'énergie et ce n'est pas bien pour la planète. Donc, autant faire, mettre quelque chose qui soit communique quelque chose par rapport à mon travail, soit ça donne des informations. J'essaie quand même de faire quelque chose de graphique et beau et je les pense comme un portfolio plutôt que comme autre chose. Donc, c'est pas... Je vais pas poster chaque jour quelque chose, mais...
Et est-ce qu'à l'inverse, vous allez chercher des choses qui vous inspirent?
Ouais,
comme
en fait...
Comme un cahier de tendance, comme...
Je l'utilise seulement professionnellement, j'ai seulement un compte d'illustrateur, et les gens que je suis dans mon compte, ils sont pas beaucoup, ils sont seulement liés à ces mondes, je l'utilise comme un instrument professionnel.
Et Enzo, quand même, parce que c'est vrai que du coup, j'ai zappé ce point-là... Le point fort du livre, c'est les amitiés que se fait ce jeune garçon, ce jeune homme, pardon, dans son cabinet. C'est des amitiés très fortes quand on a vécu ensemble cette adversité.
Oui, pour moi, c'est comme des frères et des sœurs, mais c'est pas seulement pour moi. Après, je sais que je suis très social et j'ai créé des liens assez facilement, mais moi, je suis arrivé ici et je connaissais pas forcément beaucoup de monde et travailler dans des gros cabinets, ça m'a permis d'avoir une famille qui aujourd'hui est aussi à l'étranger parce qu'en fait, c'est... Bah, les gens qui viennent ici à travailler pour ces gros cabinets, souvent, sont des étrangers. Et ils passent et du coup, après, souvent, ils retournent dans leur pays. Du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec une famille très grande dans le monde et on se revoit de temps en temps. On fait des voyages incroyables et c'est très beau. En fait, j'ai un réseau énorme à Paris et souvent, les gens sont étonnés. Ils disent, mais combien d'amis t'as? En fait, nous, on habite ici depuis 50 ans, on a moins d'amis. Bah, l'architecture, je pense, ça permet de créer des liens comme ça.
Vous êtes nostalgique de cette époque?
Je suis très nostalgique, mais je suis aussi conscient qu'on avance. Et du coup, je me dis, il y a une raison pour laquelle j'ai avancé. J'ai décidé, par exemple, de partir de ces gros cabinets ou des gros cabinets d'architecture. J'étais très content d'avoir fait cette vie pendant 5 ans ou 8 ans en changeant de cabinet. Et aujourd'hui, je suis content d'en être là.
Vous êtes toujours architecte aujourd'hui?
Je suis toujours architecte,
vous
mais...
Vous toujours comme architecte, c'est plutôt ça ma question.
J'ai fait plutôt des projets pour des amis, mais je ne travaille pas dans des cabinets d'architecture. C'est impossible de faire autre chose à temps plein si tu veux bien faire l'architecte. Donc, non.
Et en septembre, on vous retrouve avec un nouveau roman graphique, donc.
Ouais. Et
ça ressemblera un peu à celui-là ou pas du tout?
Pas du tout. Ça va être très géométrique, très minimaliste. Mais en fait, il n'y aura pas des figures humaines. Ça ne sera que des figures géométriques. Donc les personnages seront des carrés, des triangles, des cercles.
Écoutez, on va attendre. Hein, on est impatients de vous découvrir. Je rappelle le titre de votre livre, Je suis Charrette, une vie d'architecte. C'est signé Dany Collatéral. C'est aux éditions Discours. Vous étiez à Angoulême?
Je ne suis pas allé cette année à Angoulême, non.
Bon, c'est pas grave. Et puis, on a reçu plutôt Le Ciel de Tokyo. C'était d'Émilie Devaux aux éditions Rivage. Merci beaucoup, Dany. Alors, c'est Dany, votre prénom d'être... Non, c'est Dany
Collateral. C'est Daniele et Dany Collateral.
Dany Collateral. Alors, merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
D'être venu dans les studios de Radio Campus à Paris. De Radio Campus Paris, sinon je vais encore me faire disputer. Voilà, c'était La Relève. Elle a été préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Si tout va bien, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Le nouveau, c'est un nouveau numéro de La Relève. La semaine prochaine, ce sera Numérix à la même heure. Voilà, passez une bonne soirée. À 19h, si tout va bien, il y a la matinale de Radio Campus et tout le programme de la soirée. À très bientôt. Au revoir.